Charles Kloboukoff, un très grand Charles, sans effort son mètre 90, il a créé voici 9 ans Léa Nature, jardin bio, florescence, sous bioéthique, c'est lui tout simplement.
Je suis, je crois, un Français comme tous les autres, hein. Je suis un petit-fils d'immigrés russes et donc en ce sens, je fais partie des gens qui ont connu une famille dont l'ascension sociale a été assez lente. J'ai été éduqué avec l'adage que l'alimentation était la première médecine et que moins tu prends de médicaments, mieux tu te portes, puisqu'un médicament a souvent l'effet de détraquer quelque chose qui fonctionne pour guérir quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on voit qu'effectivement, les grands laboratoires pharmaceutiques sont aussi les principaux producteurs de pesticides et de produits chimiques utilisés dans l'agro-industrie. Donc quand on fait la corrélation, effectivement, on se dit qu'il vaut mieux, on va dire, se nourrir de produits naturels que de produits chimiques. Donc c'est devenu une vocation et c'est devenu une profession.
Une profession. Léa Nature, c'est un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, 600 collaborateurs. Léa Nature ne connaît pas trop la crise.
Léa Nature, effectivement, a connu une croissance régulière de 15 à 25% les 5 dernières années, un petit peu ralenti toutefois les 2 dernières années, mais on sent effectivement l'amorce d'une reprise en 2011, et donc la croissance est à nouveau au rendez-vous.
Périgny, juste à côté de La Rochelle, pour le siège social de Léa Nature, mais aussi pour l'épicerie, les cosmétiques, les infusions, le Gers pour les plantes en vrac, Bazins dans le Lot-et-Garonne pour les bio de conserverie, Jonzac, toujours en Charente maritime pour l'eau thermale, une terre d'élection que cette façade atlantique.
C'est vrai que nous avons démarré l'activité de l'entreprise avec mon épouse qui m'a rejoint assez rapidement donc en région parisienne, Porte de Pantin plus précisément. Et puis lorsque nous avons eu nos deux premières petites filles, nous avons décidé de migrer vers la province pour pouvoir leur permettre de grandir dans un environnement plus propice à leur épanouissement. Nous avons choisi le littoral atlantique pour la qualité de l'air, la qualité de la vue, les différents facteurs d'équilibre. Et en réalité, ensuite, nous avons choisi assez rapidement une ville à taille humaine, tournée vers le développement et l'urbanisation maîtrisée, prenant en compte les facteurs écologiques, comme le transport public, la gestion des espaces verts, et un certain nombre d'initiatives qu'à l'époque, le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, avait pris, avec une certaine longueur d'avance vis-à-vis des autres. Et donc, ce choix a fait l'unanimité auprès de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est même devenu un facteur d'attractivité pour recruter des cadres ou des collaborateurs techniques qui peuvent venir de toute la France et qui voient avec plaisir la perspective de venir s'installer avec leur famille à La Rochelle.
Plus obligatoire d'être arrivé à Paris pour les affaires.
Le TGV nous place à 3 heures de Paris, donc c'est tout à fait convenable. On peut partir à 5h45 de La Rochelle et être à 9h pétante à Paris. En plus, le fret ferroviaire est quand même quelque chose d'agréable qui permet de travailler, de se reposer, de faire également des rencontres. Donc lorsqu'on peut éviter le véhicule individuel et se tourner vers un mode de transport plus collectif, c'est un bien.
Tout commence donc par le fait de prévenir plutôt que de guérir.
J'ai démarré par les produits de santé dont j'étais convaincu de l'avènement de l'automédication à terme en France et en Europe. On voit aujourd'hui effectivement que le déficit de la sécurité sociale mène à prôner des alternatives justement de prise en charge et de responsabilisation pour sa propre santé et se maintenir en bonne forme. Les produits à base de plantes ont connu un grand succès et donc nous avons rapidement décliné notre savoir faire sur les produits d'alimentation bio et ensuite de cosmétiques naturels, toujours à base de plantes finalement, toujours à partir de l'univers du végétal et qui renferme énormément de trésors.
Prudence aussi, la santé financière.
Effectivement, c'est avec une certaine sagesse que j'ai pris la précaution de réinvestir pendant les premières années 100% des bénéfices dans l'entreprise pour pouvoir lui permettre de se développer et puis par la suite entre 75 et 80%.
Croissants produits, tout en province, du local, surtout du local.
Nous sommes en quête d'un nouveau modèle qui permette justement de mailler le territoire et de permettre aux entreprises d'exister malgré la concentration de la grande distribution, malgré la mondialisation et de continuer à pérenniser un petit peu ces savoir-faire dans les territoires et de permettre aussi donc aux familles par conséquence de trouver un équilibre en pouvant éviter les concentrations urbaines. Donc c'est un choix d'un nouveau modèle économique politique que nous formulons. Je suis né à Toulouse, donc j'ai une affection particulière pour le Grand Sud-Ouest en général, où il fait bon vivre, où il y a beaucoup de convivialité. Chaque territoire doit conserver ses compétences, son patrimoine agricole, son savoir-faire. Je ne vois pas, moi, l'intérêt, au nom de l'Europe, de convertir une région à une spécialisation donnée et d'abandonner l'ensemble des autres savoir-faire pour nourrir l'Europe entière d'une filière particulière et de nuire ainsi à la biodiversité et de tendre vers l'hyperspécialisation. Je pense que c'est un appauvrissement aussi bien social, économique que culturel, et donc nous marchons plutôt à l'envers de ces tendances qu'on nous sert depuis une trentaine d'années.
Au diable les chinoiseries.
Ah ça, il est vrai que le nombre de produits importés de Chine se compte sur le doigt de la main. Il y a deux, trois exceptions, comme la sauce soja fermentée, enfin des produits qui sont typiquement chinois, mais ça se limite strictement à ça. Effectivement, nous privilégions l'approvisionnement local, les savoir-faire régionaux. Il y a une alternative à la mondialisation qui est effectivement la relocalisation de l'emploi, le maintien des savoir-faire et la création de valeurs sur les territoires.
Vive la relocalisation du riz en France. En Camargue, bien sûr, Léa Nature s'y rapprocher d'Equibio.
J'étais hier justement en Camargue avec Didier Perréol, le président fondateur d'Equibio, pour voir comment nous pouvions dynamiser l'activité de la riziculture en Camargue, qui est le seul pôle de riziculture français. Il y a là-bas quelques milliers d'hectares effectivement de production de riz, dont 5 à 7% actuellement en bio. Et effectivement, nous devons nous efforcer de développer des débouchés, de développer des produits dérivés pour capter de la valeur ajoutée et développer de l'emploi en local. Ça a énormément de sens dans un parc régional naturel comme celui de la Camargue, de promouvoir une forme d'agriculture saine et dénuée d'intrants chimiques. C'est presque une anomalie de s'appeler parc naturel de Camargue et de produire de manière intensive, avec des pesticides, des herbicides, des produits agricoles.
À la clé, certaines convictions bien ancrées.
Aujourd'hui, malheureusement, le monde agricole, surtout dans l'agriculture conventionnelle, dépend énormément des subventions. C'est souvent les primes à l'hectare qui permettent de tendre à l'équilibre financier. Donc il faut absolument revaloriser le métier d'agriculteur, lui rendre ses lettres de noblesse, parce que la France a pris beaucoup de retard par rapport à d'autres pays européens en matière de promotion de l'agriculture bio. Et quand on annonce des objectifs de mettre du bio dans les cantines, si on n'accompagne pas ça de la structuration des filières et en particulier de l'accompagnement de l'agriculture en France, on n'aura comme recours uniquement que de faire de l'importation et avec des produits qui seront donc sur le plan du bilan carbone plutôt désastreux et avec des savoir-faire et des productions qui seront délocalisées, donc pas de création de richesses sur le territoire.
Mais au fait, que fait Charles Kloboukoff quand il ne travaille pas ?
D'abord je fais du sport, j'en ai besoin pour me détendre et puis pour reposer également la tête. On a besoin aussi de nourrir son corps un petit peu, de lui permettre de s'exprimer. Je lis, je me cultive. J'ai également une épouse et quatre enfants qui font qu'effectivement je passe pas mal de temps à la maison pour avec eux. Puis je voyage dans les filières, je vais aller prochainement en Bolivie. Alors c'est évidemment à la fois du professionnel mais aussi un petit peu de l'agrément, parce que découvrir un petit peu les us et coutumes des peuples un petit peu éloignés de nos modèles socio-économiques occidentaux et voir comment ils subissent l'influence, en l'occurrence là-bas plutôt nord-américaine, et comment ils évoluent est quelque chose d'extrêmement précieux. Je m'implique également dans la vie publique. J'ai accepté d'avoir un mandat au niveau du transport public sur La Rochelle, et donc un mandat par conséquence de conseiller municipal et communautaire, parce que j'estimais qu'à mon âge, il était normal peut-être de participer un petit peu plus à la vie publique locale, bien que je le fasse sans étiquette et que je sais qu'à quel point le marquage comme politique peut être un petit peu nuisible. Donc je le fais avec beaucoup d'implication, mais également avec beaucoup de précautions. Et puis également, je m'implique de plus en plus auprès d'objecteurs de conscience, d'écrivains, de gens qui ont une vision d'avance, peut-être sur la plupart d'entre nous, et qui arrivent à projeter l'avenir, à faire prendre conscience des grands enjeux de notre génération pour préparer, on va dire, l'évolution de la société dans un sens plus cohérent pour les prochaines générations. Je pourrais un petit peu essayer de, là aussi, d'émanciper ma conscience d'entrepreneur, ma conscience d'homme, et de participer un petit peu à l'évolution de la société et l'émergence, comme le dit notre ami Pierre Rabhi, d'un nouveau paradigme.
On l'aura compris, pour quelqu'un qui aime à la fois les plantes et l'arbre généalogique de ses congénères, Charles Kloboukoff déteste l'arbre qui cache la forêt et aime en revanche abattre le travail avec une une force de bûcheron.